Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir le plus fabuleux livre qui existe, dans le livre des Rois, 2 Rois 42 à 44. Nous sommes dans ce temps des prophètes Élie, qui était juste avant, et maintenant du prophète Élisée. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apportait du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son assistant répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Et nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Marc, Marc 6, et nous lirons les versets 30 à 44. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Il leur répondit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Sans levain, ou levure, hein, sans levain, le pain ne monte pas. Eh bien, sans l'Esprit Saint, la compréhension n'est pas tournée vers Dieu non plus. Voilà pourquoi, une fois de plus, nous comptons sur l'œuvre de l'Esprit, autant pour les paroles qui sortent de ma bouche, comme celles qui entrent dans nos oreilles. Et c'est avec joie que nous continuons aujourd'hui notre périple dans le journal de Pierre, écrit par Marc. C'est un témoignage de faits vécus, et nous avons le privilège d'avoir ce journal à notre portée et traduit dans notre langue. C'est un grand privilège. Après avoir vécu un stage de prédicateur de la repentance, chassant les démons et guérissant les malades, les disciples ont parcouru la Galilée et reviennent continuer leur stage, cette fois-ci, auprès de Jésus. Vous savez, parfois, dans notre vie, ce sont de courtes périodes de vie qui marquent à jamais notre personne. Parfois, c'est quelques jours de notre vie qui marquent toute notre vie, quelques mois ou quelques années. Et pour les disciples, eh bien, ce sont 3 ans avec Jésus qui ont changé leur vie entière et celle de beaucoup de personnes après eux. Et un miracle marquant, mis à part la résurrection de Jésus-Christ, est la multiplication des pains. Alors, de nombreux miracles de Jésus, seuls 2 miracles nous sont rapportés par les 4 évangiles. La résurrection de Jésus-Christ et la multiplication des pains. Ce sont les 2 seuls miracles qui sont rapportés par les 4 évangiles. Il y a bien sûr bien beaucoup plus que 2 miracles. Et cette multiplication des pains a été tellement extraordinaire. Tout le monde en parle. Et du monde, il y en a eu ce jour-là. Mais avant de nous pencher sur ce miracle, nous allons nous placer dans le contexte en lisant le journal de Pierre écrit par Marc. Nous allons le voir aussi dans sa perspective qui s'intéresse particulièrement à ce que les disciples ont appris de Jésus dans cette affaire. Vous vous souvenez peut-être que le texte qui précède ce que nous étudions, alors vous pouvez aussi vous en souvenir en regardant votre Bible, puisque si vous l'avez ouverte dans Marc 6, vous voyez ce qui s'est passé juste avant, ce qu'il est écrit juste avant. Juste avant, il est parlé d'une fête d'un roi, où il y a abondance de mets, de l'immoralité, et même le meurtre de Jean-Baptiste, qui termine la fête dans la tristesse. C'est en fait un contraste énorme avec la situation de la foule dans un lieu désert, sans nourriture, où la pureté et la sainteté sont enseignées, de même que le don de soi, ce qui se termine par une fête dans la joie et le rassasiement. Un contraste très grand. Avant la fête d'Hérode, qui était un flashback, nous avons l'envoi des disciples, 2 par 2, qui sont allés prêcher la repentance. Ils sont allés dans tous les villages de la Galilée et ils agissaient au nom de Jésus. Et tous ceux qui les rencontraient entendaient parler de Jésus. Et voilà que les disciples reviennent vers Jésus après leur stage pratique de prédicateur itinérant. Et c'est là que commence le récit qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai intitulé cette prédication « Jésus prend soin de ses disciples ». Et nous aurons 2 points qui seront développés. Le premier, Jésus accueille ses disciples. C'est le contexte du miracle de la multiplication des pains. Et deuxièmement, Jésus pourvoit aux besoins de ses disciples. C'est le déroulement du miracle de la multiplication des pains. Donc premièrement, Jésus accueille ses disciples. Je vous invite à regarder vos Bibles. Nous allons relire les versets 30 à 34 du chapitre 6 de Marc pour l'avoir bien dans notre mémoire. Les apôtres se rassemblèrent, donc ils reviennent après leur mission. Et juste une chose, une mission où les gens maintenant les connaissent tout partout. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Quelle joie pour les disciples qui se retrouvent après leur stage pratique. Ils sont contents de voir les autres disciples et surtout de retrouver Jésus. Bien des personnes cherchent à les voir. Ils sont maintenant connus, loin à la ronde, et toute la région cherche à les rencontrer. Et Jésus les accueille en 3 temps. Un temps pour raconter, un temps pour se reposer, un temps pour avoir de la compassion. Un temps pour raconter. Il est important de parler avec le maître. Il est important de parler avec les autres disciples. Alors, il est important de raconter au maître tout ce qui a été vécu. Donc, commençons par la discussion avec le maître. Nous le faisons toujours encore d'ailleurs. Simplement, pas face à une personne visible comme les apôtres, mais nous le faisons par la prière. C'est ainsi que nous parlons à notre Maître, à Jésus-Christ. Et s'il est important de prier après nos activités, il est aussi important de le faire avant. Donc on va parler de après, puisqu'on est après ici dans ce texte. Mais il est aussi important de le faire avant. Et je vous en donne juste deux raisons. La première, c'est pour manifester notre soumission. Nous agissons parce que nous avons été envoyés comme les disciples. Et la prière souligne que nous travaillons sous les ordres d'un supérieur auquel nous sommes soumis. Voilà pourquoi nous prions avant les activités que nous faisons. Deuxième raison, pour se faire guider. Nous prions parce que nous sommes conscients que nous avons besoin d'être guidés par celui qui connaît toutes choses et qui a la puissance de mener à bien ce qu'il a commencé et ordonné. Voilà, donc ça c'est la prière avant. Et après nos activités, il est aussi important de prier. Après. Et les disciples se rassemblent auprès de Jésus et lui racontent ce qu'ils ont fait et enseigné. Et voici trois raisons qui soulignent l'importance de cette rencontre, de cette séance avec le Maître, de ce meeting, pour utiliser un terme actuel, enfin meet avec Jesus. Après l'activité, pour manifester notre soumission. Voilà. C'est la même chose qu'avant. La première raison, c'est pour manifester notre soumission. Nous lui sommes redevables de ce que nous avons fait. Nous l'avons fait pour sa gloire. Voilà pourquoi nous le prions aussi après nos activités. Et la prière souligne que nous ne voulons pas prendre la gloire sur nous, mais que nous voulons que toute la gloire lui revienne. Deuxième raison, pour manifester notre reconnaissance. Imaginez les disciples, ils devaient avoir tant de choses à raconter. Des personnes qui ont été guéries, des personnes libérées, ceux qui ont reçu le message, ceux qui ne l'ont pas reçu. La prière permet d'exprimer notre reconnaissance. Et troisième raison, pour faire un bilan et se laisser corriger. Ainsi, les disciples ont raconté tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont dit, c'est pas simplement pour montrer à Jésus comme ils sont bons. Non, c'est pour recevoir son approbation et être prêt à modifier leur action si cela est demandé. Et vous savez, et rappelez-vous, le Maître ne nous met pas de pression. Mais il veut nous voir progresser. C'est pas parce que Dieu ne nous met pas de pression qu'il ne veut pas nous voir progresser. Il veut nous voir progresser, mais il ne nous met pas un poids sur nous. Et ses disciples, eh bien, l'ont vécu avec Jésus. Et maintenant que nous avons compris l'importance de parler avec le Maître, et vous pouvez trouver d'autres raisons, évidemment, je vous en donnais que trois ici, voyons un peu l'importance de parler entre disciples. Donc raconter aussi aux disciples. Comme Pierre devait être content de retrouver Jean, Matthieu se réjouissait de voir Jacques, ou encore André avait hâte de retrouver Nathanaël. Souvenez, c'est lui qui l'avait amené auprès de Jésus. Nous voyons dans la vie de la première église, plus tard aussi, l'importance de raconter ce qui s'était passé. L'exemple de Pierre dans Acte 11, qui raconte ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, était tellement importante et a permis l'entrée des païens dans l'église, la joie dans l'église. Paul, lorsqu'il revient de son premier voyage missionnaire, raconte ce qu'il a vécu. Vous pouvez le lire dans Acte 14, 27. Les disciples sont encouragés et édifiés par le récit de ce que les autres disciples ont vécu. Ils sont encouragés, ils sont édifiés par les récits de ce que les autres disciples ont vécu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi les petits témoignages sont importants. il nous encourage et nous stimule. Donc n'hésitez pas, si vous avez vécu quelque chose avec le Seigneur, de le partager. C'est important. Il y a donc un temps pour raconter. Premièrement au maître et également aux frères et sœurs dans la foi pour l'encouragement. Le premier temps. Le deuxième temps, il y a aussi un temps pour se reposer. Jésus parle avec bonté à ses disciples. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et il est utile et important parfois de se retirer, de prendre du repos pour mieux servir ensuite. Un exemple que nous avons eu la grâce de vivre avec Marlise en 2012, d'avoir 3 mois où nous avons pu nous retirer, découvrir une autre église, développer notre anglais aussi, et nous reposer. Et nous en ressentons des bénéfices jusqu'à aujourd'hui. Attention, se retirer ne signifie pas fuir le service. C'est pas la même chose. Se retirer ne signifie pas fuir le service. Trop de chrétiens se retirent pour ne pas servir. Une retraite est toujours limitée dans le temps et a pour but de permettre un meilleur service. Et attention d'autre part, de ne pas servir pour fuir la retraite. Servir pour fuir la retraite. Certains chrétiens remplissent leur temps d'activité, même pour le Seigneur, afin de ne pas se retrouver face à lui de manière prolongée. Mais Jésus a dit à ses disciples, venez à l'écart. Et lui-même prenait du temps dans la prière avec son Père. Il est intéressant de noter ici que la retraite que Jésus propose à ses disciples n'est pas une retraite dans un palace avec du wellness, plein d'animation, avec toutes sortes de distractions. Non, le lieu est sobre. Il est nommé désert. Non pas parce que c'est un désert où il n'y a rien qui pousse, mais parce que c'est un lieu où il n'y a personne ou peu de monde. Parce que ce lieu favorise la méditation et le calme. Et lorsque Jésus parle de repos, bien évidemment, il parle de 2 types de repos. Il parle du repos physique, parce qu'il prend soin de notre corps, et du repos spirituel. Le repos physique, d'ailleurs, est cyclique. Il y a le jour où le corps est en travail, et la nuit où le corps est en repos. Dieu l'a prévu ainsi. Et il y a la semaine où nous travaillons, et le dimanche où nous nous reposons de notre travail. Sans être inactif, évidemment, mais où tout ce qui concerne le travail de semaine est mis de côté par la foi. Le repos spirituel est plutôt, je dirais, une spirale au lieu de ce cycle, une spirale qui nous conduit toujours plus profondément dans le repos de l'âme. Un repos qui se base sur la confiance dans le Dieu souverain, tout-puissant et bienveillant. Et un chrétien, plus il progresse et plus il trouve du repos spirituel. Plus il progresse en maturité, plus il est dans le repos spirituel. C'est pas l'inactivité. Je parle d'un repos de l'âme. Et lorsque Jésus accueille ses disciples, il veut pour eux du repos. Je fais juste la petite parenthèse par rapport à ce qui se passe par la suite. Vous allez me dire, ouais, ça fait beaucoup de repos, il y a une foule qui était là. Juste entre nous, pendant le long temps d'enseignement, les disciples ont pu se reposer. On voit que Jésus prend soin de ses disciples, même lorsqu'il prend soin de la foule. Je referme cette parenthèse. Et si lorsque Jésus accueille ses disciples, il y a un temps pour raconter, un temps pour le repos, et il y a aussi un temps pour la compassion, un temps pour avoir de la compassion. Alors, Jésus et ses disciples font un petit voyage sur le lac pour se rendre dans ce lieu où normalement personne ne se trouve. Et voilà qu'à leur arrivée, Jésus voit une grande foule. Et je vous assure, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais vraiment beaucoup. On fera quelques calculs tout à l'heure. Et en les voyant, Jésus pense à une image très forte. À un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. Alors pour les enfants qui sont là, puis on a tous été des enfants, on a gardé cette âme d'enfant, hein. Mais vous savez que les brebis ne peuvent pas vivre sans berger. En fait, elles ne peuvent pas survivre sans berger. parce qu'elles ne savent pas où aller chercher leur nourriture. Elles n'ont aucune idée où aller chercher leur de l'eau aussi. Elles ne peuvent pas se débarrasser elles-mêmes de leurs parasites. Et si jamais elles se retournent sur le dos, elles ne peuvent pas se retourner toutes seules. Je m'arrête là, on pourrait développer, et n'hésitez pas à voir toutes ces notions de la brebis. Mais la brebis a vraiment besoin d'un berger. Et Jésus constate que le peuple est sans berger. Il est égaré spirituellement. Ce sont des aveugles qui les conduisent. Et ils ont faim, et ils ne reçoivent que des traditions. Les disciples comprennent cette image. Parce qu'en fait, cette image de peuple sans berger a déjà été utilisée dans l'Ancien Testament. Moïse l'a utilisée dans Nombre 27 en disant « Éternel, fais qu'il y ait un berger et que ce peuple ne soit pas sans berger. » Michée l'a dit quand il a dit qu'il voyait un peuple sans berger, Saül qui allait être tué. Ou encore Jérémie qui parle de cette image, ou Ézéchiel, ou encore Zacharie. Donc cette image est une image forte dans l'Ancien Testament, un peuple sans berger. Jésus a compassion de cette foule. Il a compassion. Lors de des prédications sur l'artisan de paix, nous avions défini ce qu'était la compassion. Vous vous souvenez? Oh, ça fait quelques années. Alors, je vais vous redire la définition que nous avions vue. La compassion nous rend profondément conscients de la souffrance de l'autre. Première élément. La compassion nous rend profondément conscient de la souffrance de l'autre et nous pousse à vouloir l'aider. La compassion nous incite à ne pas nous attarder sur nos propres difficultés et à nous préoccuper de celles des autres. Voilà la compassion. La compassion nous rend profondément conscient de la souffrance de l'autre et nous pousse à vouloir l'aider. La compassion nous incite à ne pas nous attarder sur nos propres difficultés et à nous préoccuper de celles des autres. C'est exactement ce que Jésus vit ici. Jésus comprend que le plus grand besoin de cette foule sans berger, c'est la nourriture spirituelle. C'est très fort ici. Jésus comprend que le plus grand besoin de cette foule sans berger, c'est la nourriture spirituelle. Alors, il se met à les enseigner longuement. Il n'a pas commencé par leur donner un pique-nique. Quand il voit ces brebis sans berger qui ont couru pour être avant lui, là, ils avaient besoin d'une nourriture spirituelle. Et les disciples comprennent ainsi l'importance de la compassion. La compassion. J'ai pas dit, mais il y a toute cette notion aussi du deuil de Jean-Baptiste et tout ça qui est aussi encore un peu présent hein, dans cette situation de la multiplication et où Jésus, malgré cette situation qui n'est pas facile pour lui, a compassion. Il aura d'autres moments où il se retrouvera seul avec son père, mais là, c'est le moment d'avoir compassion. Et ils comprennent cette importance et l'importance ici aussi d'avoir compassion spirituellement avec l'enseignement. Jésus aurait pu tout de suite nourrir physiquement cette foule, mais il ne le fait pas, parce qu'il veut montrer ce qui est plus important à ses disciples. C'est la vie éternelle qui doit être toujours notre but, sans pour autant mettre de côté l'importance aussi de la vie physique, évidemment. Nous avons donc vu que Jésus accueille ses disciples, que dans cet accueil nous trouvons un temps pour raconter ce qui a été vécu, un temps pour se reposer et un temps pour la compassion. Mais le temps passe et les disciples vont parler à leur maître et nous arrivons à notre deuxième point que j'ai intitulé « Jésus pourvoit aux besoins de ses disciples ». Alors relisons les versets 35 à 44 pour l'avoir en tête. « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans la campagne et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Mais irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction, puis il rompit les pains, les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons pour tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et nous allons souligner ici 3 choses que l'on peut retirer de ce texte. La première, c'est que les disciples donnent ce qu'ils ont. Les disciples donnent ce qu'ils ont. Deuxièmement, Jésus multiplie. Et troisièmement, rien ne manque. Rien ne manque. Donc les disciples donnent ce qu'ils ont. Tout d'abord, les disciples constatent qu'il est tard et que les gens n'ont pas mangé. Alors pour eux, plutôt, ils n'avaient même pas le temps de manger, vous vous souvenez ? Et Jésus leur a dit, mais venez à l'écart, etc. Donc, ils se rendent compte qu'il y a un besoin qui est là, et c'est juste. Et c'est une bonne chose de vouloir le bien physique des autres. Mais ici, les disciples, peut-être poussés par leur expérience de stage de prédicateur, boostés, si vous voulez, veulent prendre la situation en main, eux-mêmes. Alors qu'ils sont en présence du maître, là. Et ils disent à Jésus ce qu'il doit faire. Vous voyez dans le texte ? Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie-les, voilà ce qu'il faut faire, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Alors Jésus réagit avec une question qui peut paraître étonnante au premier abord. Il leur répond, donnez-leur vous-même à manger. En fait, Jésus place ici les disciples face à leur choix de vouloir eux-mêmes prendre les choses en main. Ok, tu joues à Dieu ? Vas-y, nourris-les. Et si Jésus pose cette question, c'est pour aider les disciples à constater dans quelle situation et état ils sont, pour leur donner de changer d'attitude. Et quand ils comprennent cela, vous avez vu la chose suivante que les disciples vont dire à Jésus, ce n'est plus un ordre, c'est une question. Et là, ils comprennent. Et Jésus, là, reprend le contrôle de la situation et engage les disciples dans un chemin salutaire. Il leur demande ce qu'ils ont. Mais c'est tellement bienfaisant. Jésus ne leur demande pas ce qu'ils n'ont pas. Il leur demande ce qu'ils ont. Et Dieu agit aussi ainsi avec nous. Il n'est pas en train de nous dire, dis-moi ce que t'as pas, que je puisse vraiment te montrer que... Non ! Il nous demande qu'est-ce que nous avons. Même une toute petite chose. Qu'as-tu ? Alors les disciples, ils s'informent, là, ils prennent la chose au sérieux. Ils ne sont pas juste en train de dire, oh, on n'a pas grand-chose. Non, non. Ils vont sérieusement chercher, et ils s'informent, et ils disent ce qu'ils ont trouvé. Ils disent exactement ce qu'ils ont trouvé. 5 pains et 2 poissons. Alors, il faut juste comprendre que les pains dont on parle ici, c'est pas des pains de 1 kilo. Ok ? En fait, ça, c'est le lunch, le casse-croûte d'un petit garçon. Vous voyez, avec 5 pains de 1 kilo, là. Mais non, c'est des petits pains, des tout petits. Alors, ils appellent ça les cailloux, les petits cailloux en pâte. C'est ce genre de pain, en fait, qu'avait. Parce que c'était 5 pains pour un petit garçon, le casse-croûte d'un petit garçon. Ou des petites galettes de pain, si vous voulez. Et Jésus demande simplement de lui donner ce qu'ils ont. Et c'est lui qui va s'occuper du reste. Il demande simplement de lui donner ce qu'ils ont et il s'occupera du reste. Ça me rappelle l'histoire de Élie avec la veuve de Sarepta. Qu'as-tu à la maison ? C'est un temps de famine, terrible. Des gens mouraient, vous n'avez pas assez à manger. Elle dit, il me reste juste un tout petit peu de farine et d'huile. Je vais faire mon dernier gâteau, ensuite on va mourir parce qu'on n'a plus rien. Que dit Élie ? Va, fais-moi un gâteau avec ça. Et l'huile et la farine ne manquera pas. Elle a été appelée à donner ce qu'elle avait d'abord, et Dieu s'est ensuite occupé du reste. Je connais aussi quelqu'un qui un jour a mis 5 francs dans la boîte à offrandes, alors que cette personne n'avait pas beaucoup d'argent, et quelques jours après, elle reçoit 200 francs. Attention, j'ai pas dit que ça marche à tous les coups. Alors, essayez pas de mettre 5 francs, puis vous attendez 200 francs quelques jours plus tard. C'est pas ça. Dieu prend soin selon les besoins. Mais c'est des choses qui sont vraies, qui arrivent, j'ai des témoignages. Les disciples n'ont donné que 5 petites galettes de pain et quelques minutes après, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont nourris. Waouh ! Mais ce que Dieu peut faire avec notre petite chose qu'on lui donne, c'est extraordinaire. Il vaut toujours la peine de lui donner ce que l'on a, même si cela paraît tellement peu. Un petit coup de main, un petit coup de téléphone, un peu de temps, une petite carte, et Dieu peut multiplier. Un changement de vie peut provenir, qui devient une personne qui annonce l'évangile à d'autres, et des centaines de personnes viennent nous saluer à cause d'une carte que vous avez écrite. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Jamais hésiter à donner la petite chose à Dieu. Et justement, dans notre texte, Jésus multiplie. Deuxième aspect que je souligne, mais tenez-vous bien, il multiplie de façon extraordinaire, tellement fantastique que ce récit véridique est dans les 4 évangiles. On dit qu'il y a 5000 hommes, alors vous allez m'aider à calculer. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Alors, on calcule. Alors, 5000 hommes, il y avait sûrement autant de femmes. On ajoute. Ok ? Et on peut facilement imaginer qu'il y avait au moins autant d'enfants, parce qu'ils étaient sûrement mis en famille. Puis on peut même mettre le double, comme ça, 2 enfants par famille, c'est encore pas énorme, disons. Donc, 5000 hommes, le même nombre de femmes, plus le double d'enfants, on met tout ensemble, et ça fait combien? Ça fait beaucoup. Or, si je dis 5 plus 5 plus 10, ça fait 20. Après, on met 1000, comme ça, c'est plus facile. 20 000 personnes! 20 000 personnes! Non, mais moi, je trouve ça énorme! Et pour la région, c'était énorme. Faut savoir que la région n'était pas peuplée de centaines de milliers de personnes. Donc ça veut dire que presque toutes les personnes de la région, il y en avait d'autres qui étaient venues aussi d'ailleurs, étaient présentes. C'est 2 fois la capacité du stade de la Maladière, si vous voulez un élément ici de Neuchâtel. Et Jésus a rompu le pain, l'a donné à ses disciples, qui sont allés distribuer ça à la foule. Voilà, la Maladière, les gradins sont pleins, distribuent, et puis après, deuxième vague, hop, la même chose. Tout le monde reçoit du pain et du poisson. Alors, comment il a été multiplié, à quel moment, ne me demandez pas, je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que des pains qui n'existent pas, la minute après, existaient. C'est une création de Dieu. Il n'y a pas eu de moisson de blé, de farine moulue, puis de pain cuit, non. Produit fini. Made by God. Mais ça devait être le meilleur pain du monde, les amis. Comme un canal, le meilleur vin, le meilleur pain du monde, fait directement par Dieu. Tac! Il n'y a pas eu de chaîne de corruption entre deux. Rien. Les poissons, la même chose. Ils sont même pas morts, les poissons. Enfin, ils n'étaient pas vivants. Produit fini. Même ceux qui n'aimaient pas le poisson l'ont mangé, je suis sûr. C'était tellement bon! Extraordinaire. Ils n'ont jamais vécu cela. C'est un acte créateur qui manifeste la puissance de Jésus et qui devrait susciter la totale confiance qu'il pourvoit aux besoins. C'est un miracle marquant. Vous savez, Jésus ne fait pas 10 000 fois certains miracles. La sortie d'Égypte, c'était une fois. Et elle devait marquer le peuple d'Israël pour tous les temps. La croix, c'est une fois. Et ça nous marque pour l'éternité. Ce miracle des pains, il en a refait une deuxième fois, c'est vrai. Ils étaient 4 000, 5 000, 4 000. Mais c'est quelque chose qui a marqué, vous imaginez? Manger cela? Eh bien, cet acte créateur manifeste la puissance de Jésus et donc devrait susciter la totale confiance qu'il pourvoit aux besoins. Comment ne pas penser à la manne dans le désert? On est dans un lieu où il n'y a personne, comme le désert. Bien des éléments nous font penser, une foule sans berger qui est maintenant en rang, 100 et 50, donc 100 fois 50, 5 000, comme ça c'est plus facile. Et donc, ils sont placés en rang, alors qu'avant ils étaient vraiment comme des brebis sans berger, comme le peuple qui était dans le désert, placé aussi bien clairement, et où Dieu donne son pain. Cela aussi certainement fait penser à Élisée. Nous avons lu le texte tout à l'heure, qui a vécu un signe semblable. Il n'y a peut-être pas autant de monde, mais la notion est la même. Et tout le monde reconnaissait qu'Élisée était envoyé par Dieu. Cela était une marque que Jésus était envoyé par Dieu. Et s'il l'a fait à différentes époques, on peut parler de la manne, d'Élisée, de ce que Jésus a fait, eh bien, il le fait encore aujourd'hui, parfois même pratiquement, mais surtout, enfin physiquement, mais surtout spirituellement. Jésus multiplie ce qui lui a été donné. Il multiplie ce qui lui a été donné. Et les disciples, de même que le petit garçon, franchement, le petit garçon qui a donné son lunch, il devait se dire, waouh, mon petit lunch là, ça nourrit toutes ces personnes. Eh bien, vous savez, l'enfant qui donne ses petits 5 francs, et on aide des centaines de personnes au Sri Lanka, mes 5 francs là, avec tout ce que l'église met avec, ça a aidé toutes ces personnes là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus multiplie et il le fait de manière généreuse. Rien ne manque. Dernier élément, rien ne manque. Regardez-moi avec moi le verset 42 et 43. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poisson. Tous mangèrent. Or comme j'ai dit précédemment, c'était les meilleurs pains et les meilleurs poissons du monde, donc personne n'a laissé passer cette aubaine, évidemment. Tous ont mangé, hein. Même ceux qui n'aimaient pas le poisson, et ils n'en ont pas mangé qu'un peu, mais de manière à être rassasiés. Être rassasié, ça veut dire quoi? Quand vous dites « je suis rassasié », ça veut dire que vous avez assez mangé, suffisamment. Hein? On peut dire que vous êtes plein. Alors si 5 pains, c'était le lunch d'un petit garçon, imaginez le nombre de pains qu'un homme mangeait pour avoir assez mangé. C'est un miracle impressionnant par sa précision. En fait, Jésus n'a pas seulement nourri toutes les personnes présentes, il a prévu le nombre de pains pour que tout le monde soit rassasié, mais il a aussi prévu qu'il en ait assez pour qu'il reste 12 paniers. 12 paniers exactement, de pain et de poisson. Oh, pourquoi 12 à votre avis? Allez, pourquoi 12? Mais voilà, vous avez tout compris. Parce que 12 disciples, pourquoi? Parce qu'il veut faire comprendre à ses disciples qu'il pourvoit à leurs besoins, à chacun. C'est très fort ce qui a été vécu là. C'est pour ça que les 4 évangiles en parlent, ça les a marqués profondément. Tous mangèrent le meilleur pain et les meilleurs poissons qui ont existé, made by God, de manière à être rassasiés, et il reste 12 paniers pour que les disciples comprennent que Jésus prend soin d'eux. Si Jésus est capable de créer du pain et du poisson, il est aussi capable de tenir, voilà, ses paroles, toutes les promesses qu'il a dites et nourrir notre âme. S'il est capable de nourrir physiquement, il est aussi capable de nourrir spirituellement. Alors si aujourd'hui, dans cette salle, à la rue du Lac 10 à Peseux, certains se trouvent ici avec une âme affamée. Vous aspirez à un vrai repos intérieur, libéré des peines, lavé de toute souillure, de tout tourment. Venez à Jésus-Christ à la croix, qui a tout payé, rien ne manque. Il y a même du surplus de bénédictions pour que nous puissions continuer à bénir autour de nous. Jésus nourrit nos âmes. Et si tu es chrétien, si ton âme a déjà été nourrie, j'espère que tu as compris aujourd'hui que Jésus t'accueille, avec ces 3 temps qu'on a vus. Jésus accueille, qu'il pourvoit à tes besoins. Et il le fait de telle manière à ce que tu puisses donner ce que tu as et qu'il le multiplie. Que le Seigneur nous guide dans cette semaine de dire, mais qu'est-ce que, même une petite chose que je peux donner au Seigneur, lui, il s'occupera du reste. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est vrai que bien des personnes souvent se disent, mais ça aurait été génial d'être présent, de vivre ce temps en Galilée ou nous pouvons goûter ce pain et ce poisson. C'est vrai, en fait, j'aurais bien voulu goûter ce pain et ce poisson. Et en même temps, c'est tellement fabuleux qu'on en ait un témoignage qui nous permette, comme ceux qui étaient là, de se dire, mais waouh, mais si Jésus peut faire ça, il peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Il a la puissance de le faire. Et en plus, un jour, je vais manger de ce pain et de ce poisson dans la cité céleste. Quelle grâce, Seigneur, tu nous donnes d'avoir ta parole qui nous permet d'être saisis par cet accueil de Jésus pour ses disciples qui reviennent de mission, de voir Jésus qui est rempli de compassion. Ça nous fait tellement de bien, particulièrement dans ces temps, Seigneur, de savoir que tu as compassion de nous, que tu es un Dieu qui ne va pas nous laisser tomber, tu es un Dieu qui se met à côté de nous, qui nous encourage, qui nous enseigne, qui nous stimule. Et nous voulons, Seigneur, t'en être infiniment reconnaissants. Oh, donne-nous cette grâce, Seigneur, de nous réjouir de tes œuvres. Donne-nous aussi de témoigner de tes œuvres autour de nous. Et que nous puissions ensemble être encouragés et édifiés. Oh, permets que chacun ici, Seigneur, soit clairement encouragé, fortifié par ta grâce et par le fait que tu es un Dieu qui pourvoit et que tu es notre force. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.